emra mare bir bilo moi falan zemalit me şoçete tira dil serpren vera të kam dashtur dhe të dua ma je bukuro dua të jesim mo leftuar mo je miro mo je miro vi pas me lenë na sa të rritën pak por si më merë zemra more bilbilo moj fëllën zemalit me shoqet e tjera zil ser pran vera të kam dashtur dhe të dua moj e bukuro o dua të jesim mo leftuar moj e miro moj e miro.
Ça, c'était une chanson du Kosovo et tout à l'heure une chanson du Portugal, puisqu'il y a beaucoup d'enfants portugais et du Kosovo qui sont clandestinement chez nous et qui aimeraient bien réintégrer les bancs d'école. Alors revenons à nos objets réunis et comme vous le disiez Charles tout à l'heure, maintenant à partir des objets que vous receviez au fur et à mesure, vous avez eu envie d'aller rencontrer les gens qui vous ont donné ces objets. Alors dans ces rencontres, qu'est-ce qui s'est un peu passé? D'abord, pourquoi vous avez eu envie d'écouter plus particulièrement ces gens, hein, Christine? Oui, vous étiez parmi les gens qui ont fait des interviews.
Bon, je crois que si on travaille dans un musée d'ethnographie, c'est l'évidence même que de rencontrer les gens qui peuvent être concernés. Ça fait partie, c'est une méthode de travail la plus normale qui soit. Je crois que par rapport aux objets, chaque fois qu'on peut obtenir un peu plus que simplement l'objet, une fiche descriptive d'un objet, c'est-à-dire savoir à qui il a appartenu, qu'est-ce que c'était que cet objet, on le fait tout le temps. Donc pourquoi pas le faire aussi pour ces objets-ci. Et puis là, il y avait... dans un premier temps, il y avait même des problèmes très, très stupides du type les dates des objets. Si vous avez une photo de classe, la photo de classe, elle n'est pas très intéressante. Si vous ne pouvez pas avoir le nom de l'école et savoir quand elle a été prise, la personne qui peut le mieux le dire, c'est la personne qui se reconnaît sur la photo de classe et qui dit « Ah oui, là j'avais 8 ans, c'était ma prof, etc. »
Parce que les gens n'accompagnaient pas leur don ou leur prêt de petits commentaires.
Oui et non, mais c'est peut-être pas fait aussi systématiquement que si vous le demandez. Mais alors, dans un second temps, donc dans un premier temps, c'était purement utilitaire. Dans un second temps, c'était qu'on se rendait compte qu'on apprenait beaucoup au contact des gens. C'est-à-dire que ces objets qui étaient périmés, qui étaient dépassés, qui avaient été conservés, sauvés, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien, on avait envie un petit peu de savoir pourquoi. On avait envie qu'on nous dise où on les avait gardés, ce qu'on avait fait tout au long de sa vie avec ces objets, pourquoi est-ce qu'on avait conservé ça et pas ça, etc. Et c'était le fil conducteur de nos entretiens.
Alors, je crois qu'on va écouter tout de suite une première rencontre, la rencontre avec Madame Meunier. Madame Meunier qui, elle, nous raconte, profite de raconter à partir des objets qu'elle est en train de montrer, d'objets de couture, quel a été son parcours scolaire à un moment donné.
Eh bien, il y avait la coupe enfant, la coupe dame, il y avait la broderie. Mm-hmm. Alors, ça faisait... Puis, il y avait aussi la leçon de raccommodage. Avec les pièces.
Les pièces,
oui.
Et puis le tricot.
Vous entendez?
Le tricot aussi.
Aussi, oui.
Et
l'école ménagère, bon, il y avait beaucoup de couture et de choses comme ça.
Oui, mais alors il y avait beaucoup d'allemands.
Allemands,
ah, oui.
Ça finit, attention, ça finit par, elle dit,
allemand, le français aussi.
Maths.
La comptabilité.
Ouais. Je vais voir ça sur les carnets.
L'arithmétique. Oui, vous verrez les branches.
Oui, on appelait ça l'école ménagère, mais en fait, c'était une école de culture générale.
Oui, voilà. C'est pour ça que ça a changé de nom maintenant. Ça s'appelle culture générale. Quand on a fait cette école, on peut aller n'importe où. On peut faire n'importe quel apprentissage. C'est quand même plus haut que
d'arrêter à la fin d'école
primaire. Oui, parce qu'il y avait 6 ans, et puis si on n'allait pas à l'école supérieure, donc ménagère ou secondaire à la Nouvelle-Terre, alors il y avait la 7e année.
Voilà.
Et puis alors, il y avait beaucoup de filles qui sortaient de la 7e, elles allaient elles allaient travailler au Spiro, c'était juste au bout de cette rue. Mmh. C'est Gérald Janta maintenant qui a cette maison. C'était une fabrique de Spiro. C'était des tout petits ressorts, vous voyez, des ouais. trucs de montre.
Ah ouais.
Alors elles allaient
tout de suite travailler ouais, en fabrique.
Disait, elles vont à la crèche. Parce qu'elles allaient en fabrique, oui, oui. Puis vous voyez, on n'était pas riches parce que l'école ménagère, il fallait la payer quand même. Puis les mères, elles ne travaillaient pas dans ce temps-là. Mm-hmm. Les femmes, elles ne travaillaient pas. Mm-hmm. Enfin, ma mère, elle n'a jamais été travaillée.
Oui, toute la...
Voilà, Madame Meunier, qui, elle, est née en 1916 et qui a toujours travaillé toute sa vie, 30 ans durant, qui a 3 filles et qui donc raconte un petit peu toute son histoire autour de ces objets. Parce que j'imagine que dans ces entretiens, on allait bien au-delà d'expliquer simplement c'est quoi ce cahier, c'est quoi cette plume. Tout à coup, tous les souvenirs étaient ressassés, non ?
Oui, bien sûr. Dans ces... Il y avait deux sortes, au fond, d'entretiens. Il y avait la première fois où on voyait la personne, où on était assez proche des objets, parce que la personne ouvrait son carton, son tiroir devant nous, elle avait fait déjà un pré-choix, et puis elle expliquait un peu son choix, par exemple, entre ce qu'elle voulait prêter, ce qu'elle voulait donner, donc ce qui était prêté, il fallait nous donner toutes sortes de recommandations par rapport à ces choses. Et puis, il y avait tout un travail de datation, etc. Et puis, les gens rencontrés parlaient assez volontiers des... Enfin, ils avaient toutes ces réactions très spontanées devant les objets qu'ils retrouvaient. Par exemple, retrouver une photo de classe. Alors, on la regarde, puisqu'on l'a... Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Puis on se met à désigner les élèves les uns après les autres, etc. Donc, on était très proche des objets. Et puis, il y a eu un second type d'entretien. C'est quand nous sommes retournés chez un certain nombre de personnes. Et là... Alors là, c'était assez bizarre parce que il y avait toutes sortes de réactions et aussi la réaction de se dire mais qu'est-ce qu'elles reviennent faire ici ? Moi qui leur ai déjà tout donné ou donné et prêté, qu'est-ce qu'elles me veulent encore ? Et on a eu plusieurs réactions de méfiance ou même un peu d'agressivité du style je vous ai tout dit. Et puis bon, on sait que ça se passe très souvent comme ça, c'est-à-dire que si on veut poursuivre un entretien avec quelqu'un, il ne faudrait pas retourner deux fois, mais entre la deuxième et la dixième fois, il ne va peut-être plus rien se passer, si ce n'est de redire « Ah oui, mais vous savez, je vous avais dit ça ». Et puis des sortes de déviances du discours, c'est-à-dire que pour ne pas entrer dans des choses trop importantes, on a déjà dit... On a l'impression d'avoir déjà dit l'essentiel, alors on vous distrait, alors on vous raconte des choses qui sont pas forcément liées au sujet dont on parle. Alors on vous raconte une maladie, on vous raconte quelque chose qui s'est passé chez une voisine, mais tout ça est très naturel. Et au fond, ce que nous avons fait, nous nous sommes arrêtés là. Nous n'avons pas été plus loin dans les entretiens avec les gens. Ce serait un autre travail. Et puis de toute façon, pour une série d'entretiens plus poussés, on ne va pas voir 250 personnes, mais on en choisit 3.
Ça, certainement, oui. Mais en tout cas, il semble une chose évidente aussi à travers ces entretiens, c'est qu'il y a tout d'un coup des gens qui ont fait ressurgir des choses qu'ils avaient sûrement gardées très loin, du genre des blessures qu'ils avaient pu vivre à l'école, ou bien au contraire des très grands bonheurs, qui allaient bien au-delà du simple souvenir des objets. Et là, vous n'avez pas été parfois surpris parce que l'objet lui-même faisait ressurgir tout à coup comme mémoire.
Moi, je suis beaucoup plus surprise maintenant que les objets sont exposés. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les visiteurs se laissent beaucoup plus aller à ce souvenir que les gens qu'on voyait à ce moment-là. Même si c'est les mêmes, d'ailleurs, mais ils n'ont pas du tout la même réaction. Oui, on a eu des moments émouvants ou... Je ne sais pas, par exemple, la personne qui feuillette son livret scolaire et qui se ressouvient qu'elle était vraiment bonne à l'école, mais qu'elle a pas pu faire d'études. Et maintenant, c'est trop tard. Et maintenant, sa vie professionnelle est passée. Et on entendait cette phrase, « J'étais bonne, mais j'ai pas pu faire d'études. » Enfin, il y avait plein de choses comme ça.
C'est à peu près ce que dit Madame Grandjean, dont j'ai gardé un petit passage, qui, elle, aurait bien aimé aussi aller à l'école supérieure et qui a constaté que sa maîtresse avait triché, avait faussé son carnet.
Et tout d'un coup, j'ai trouvé mon livret. Mais
Là, c'était marqué 18. Puis moi, il me fallait 17 points. Puis regardez ce qu'elle avait fait, la maîtresse. Vous voyez, avec un qu'elle a fait un 2. Vous voyez l'époque?
Ah, ouais.
Alors, j'avais 18 points. Je ne pouvais plus aller en supérieur.
Ouais,
mais
ouais.
Quand elle m'a donné le carnet, vous voyez, c'est moi qui ai fait le croix dessous.
Ouais,
vous voyez, avec le 1, elle a fait un 2.
Ouais.
Elle ne l'avait pas marqué. Moi, j'avais vu qu'elle n'avait pas marqué, mais j'avais compté les points. Et là, c'était un 1.
Ouais. Et puis, elle a corrigé.
Ouais. Vous voyez, alors l'Hippocrate et l'hypocrisie, ça allait bien ensemble. Hein. Alors,
c'est tout, mon Hippocrate.
C'est la première chose que j'ai vue, ce 18, ouais. Alors que moi, j'avais compté 17.
Ouais, ouais.
Et puis, regardez, là derrière, le courage du directeur des écoles. École terminée le 31 mars, et puis sa signature.
Mm-hmm.
Et pourtant, ils avaient un tampon, vous voyez.
Ouais, ouais.
Vous voyez
faire,
alors, il n'a même pas eu le courage de mettre son tampon.
Ouais, c'est très
vous voyez comment on démolit des enfants, le moral à des enfants.
Ouais.
Souvenir vivace encore que celui de cette tromperie de sa maîtresse. Alors, Charles, je crois que vous avez écrit quelque part que vous avez été quand même très surpris en voyageant à travers ces souvenirs de découvrir quel était le statut de ces souvenirs dans la vie des gens, l'importance de ces souvenirs dans la vie des gens. Est-ce que ça a joué un rôle aussi pour déterminer quelle allait être finalement l'orientation de l'exposition elle-même? Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit, on va plutôt choisir ces objets, tel autre? Est-ce que ça vous a guidé pour sélectionner la masse d'objets que vous avez reçus?
Alors tout à fait, là nous avons eu un critère très précis qui était que nous étions intéressés par les objets qui étaient détenus par le plus grand nombre de gens. Ça veut dire plus précisément que sur 400 personnes, si 200 personnes ont un même type d'objet, on peut imaginer qu'en tout cas pour les gens qui nous ont répondu, cet objet a un statut plus fort que si seulement une dizaine de personnes ont gardé cette chose. Et en fait, c'est ce critère-là qui nous a donné un premier tri des objets qui a fait que nous avons insisté sur les choses de la petite enfance parce qu'elles sont beaucoup conservées, que nous avons insisté sur les manuels scolaires qui sont aussi... que beaucoup de gens conservent, sur les photos de classe, sur les cahiers, et particulièrement sur les beaux cahiers, parce que ça c'était une chose qu'on n'attendait pas vraiment, qui est en même temps assez banale, mais qui apparaît dans l'exposition avec force et dans la collection avec force. On garde les cahiers dans lesquels on a dessiné, les cahiers pour lesquels on a découpé des vignettes, les cahiers sur lesquels on a passé beaucoup de temps, où on a utilisé la couleur, ou peut-être même on a sué d'une certaine manière en essayant d'obéir à des consignes strictes du maître. Mais quelque part, cette discipline allait sans doute de pair aussi avec un sentiment de vraiment y mettre du sien, de faire quelque chose qui soit vraiment à soi. Et on a gardé ces cahiers beaucoup plus fortement. On a gardé aussi beaucoup les affaires de couture. Bon, ça c'est lié à la nature de la collection et des gens qui nous ont donné des choses. Mais la couture, on garde beaucoup ces affaires de couture. Alors nous avons repéré comme ça une dizaine d'objets, plus particulièrement conservés, les plus fréquemment conservés par les gens. Et puis quelques autres qui l'étaient un peu moins, parce que ça n'est pas parce qu'ils sont moins représentatifs qu'ils sont moins intéressants. Et alors à partir de là, nous avons construit une histoire en commençant tout d'abord par essayer de parler du fait de jeter ou de garder, parler aussi du fait d'enfouir, parce que nous avons distribué ce papillon à 193 000 exemplaires, il y a 450 personnes qui nous ont répondu, donc il ne faut pas être dupe, il y a beaucoup de gens dont on ne sait pas ce qu'ils ont fait, il ne faut pas non plus conclure qu'ils ont tous jeté. Je crois que ce serait une erreur, mais certainement qu'il y en a beaucoup qui ont jeté, et semble-t-il assez massivement ceux qui n'aimaient pas l'école. Je crois qu'on a rarement rencontré, et ce serait intéressant de rencontrer des gens comme ça, des gens qui ont aimé l'école mais qui ont jeté, un petit peu comme on en parlait parfois, jeter pour rester fort, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, ce passé, c'est simplement encombrant, et que si on est au clair sur soi et son présent, on n'a pas besoin de ses racines. On a eu très peu, ou même pas du tout, de discours comme ça. Donc, c'était plutôt quand à jeter une grand-mère qui disait, une mère qui disait d'un de ses enfants, j'ai gardé ses affaires parce qu'il était bon élève. L'autre, il était un peu turbulent à l'école, alors j'ai tout jeté.
Donc les mauvais, ils n'ont pas droit aux souvenirs. Jamais personne n'a gardé des mauvais carnets, les punitions ou des choses comme ça.
Alors on a très très peu de punitions, par exemple. On en a une, je crois, et on a très peu de mauvais carnets. Bien sûr, les filles sont toujours plus studieuses que les garçons, c'est une vieille rengaine, et ce sont des bons carnets. Mais pour revenir à ce que vous avez entendu tout à l'heure et ce dont on parlait à propos des rencontres avec les gens, il y a quand même une chose qui nous a beaucoup frappé, peut-être le plus frappé dans les rencontres avec les gens, c'est l'importance extraordinaire du jugement de l'école sur les enfants. On n'est même plus, moi je dirais volontiers qu'on n'est même pas dans l'ordre du souvenir là. On est dans l'ordre de la marque, en bien ou en mal. Ça a une force extraordinaire. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a un mauvais carnet. Il avait un nom prédestiné pour avoir des mauvais carnets. Il s'appelait Nestor Molière. Et un jour, je reçois un téléphone de Madame Nestor Molière qui me dit « J'ai appris qu'il y avait un carnet d'un Nestor Molière dans l'exposition et je ne sais pas s'il s'agit de mon fils ou de mon mari, parce qu'on ne m'a pas dit la date de ce bulletin, mais je vais aller voir et on en reparlera. » Et quelques temps plus tard, j'ai reçu une petite lettre de Madame Nestor Molière qui me disait c'était le carnet de mon mari. Et il ne m'avait jamais dit qu'il était turbulent à l'école, mais c'était un bon mari. Et ça a l'air comique, ça l'est d'une certaine manière, mais en même temps ça ne l'est pas, au sens où ça veut dire que le jugement de l'école préjuge de l'ensemble de votre vie. Et si au fond on n'a pas été bon à l'école, peut-être qu'on pourrait aussi ne pas être bon mari. C'est dire que le jugement de l'école est un jugement un peu omniscient et omniprésent. Et il laisse une marque extrêmement forte.
Par exemple, est-ce que ces souvenirs aussi aident les gens à rester en contact avec le présent ? L'histoire des photos, par exemple, de classe m'a beaucoup frappée. Bon, vous avez choisi de réunir ces photos dans des albums. Les gens peuvent s'asseoir, consulter, chercher si par hasard ils retrouvent leurs photos de classe où ils étaient, tout en n'ayant pas forcément eux-mêmes envoyé la photo de classe. Et vous leur donnez même la possibilité de faire refaire la photo si jamais ils la trouvent. Donc, c'est vraiment l'idée de les aider à perpétuer leurs souvenirs. Et j'entendais en écoutant, en me promenant, beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais celle-là, t'as vu, c'est celle qui est la femme du banquier, mâche truc chose. » Visiblement, la photo permet de parler du présent et non pas du passé. On ne dit pas « C'est celle qui était assise à côté de moi à l'école », on dit « C'est la femme du banquier, machin. »
Je crois à cet égard que ce qui est très frappant à propos des photos de classe, c'est qu'au fond, peut-être que la classe de l'école primaire ou les classes de l'école primaire dans lesquelles on a été, c'est une espèce de fond de sociabilité qu'on a pour toute sa vie. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on ne perdra jamais de vue. On va toujours s'intéresser un petit peu à ce que sont devenus ses camarades d'école. Peut-être parce que ce sont des gens qu'on a fréquentés très longuement. Peut-être c'est ceux qu'on fréquentera le plus longuement. Et parce que l'enfance, en général, fait l'objet d'un souvenir plus vivace. Donc, on en parle au présent, mais comment interpréter ça ? Peut-être en disant que c'est un groupe de gens, si arbitraire qu'ait été sa constitution par des listes, des alphabets, des lieux de résidence, c'est un groupe de gens qui est à jamais élu d'une certaine manière et on s'en souciera toujours. C'est à tel point qu'on se retrouve très souvent, on y reviendra peut-être, entre gens qui ont fréquenté une même école primaire. Et à propos des photos de classe, il y a une autre chose qui paraît banale, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça si on savait y réfléchir, c'est l'enjeu de se reconnaître sur une photo. Un jour, je suis allé voir un de mes maîtres de 7e du collège. Il m'a sorti tous les registres de toutes les années où il avait été enseignant et il m'a sorti toutes les photos de classe de toutes les classes qu'il avait eues. Et il m'a montré ma photo de classe et je ne l'avais pas vue depuis très longtemps. Et je me suis presque immédiatement reconnu. Mais un ami me disait, ça n'est pas du tout évident de se reconnaître sur sa photo de classe, si tu y réfléchis bien. Et il y a tout ce premier enjeu de, est-ce que je peux encore me reconnaître à travers le temps ? Et cette cérémonie de la reconnaissance, je crois qu'elle est très forte, elle est difficile à comprendre d'une certaine manière, ou alors peut-être que des psychologues pourraient en parler longuement, mais je crois qu'elle est un enjeu fondamental et elle a à voir avec l'appartenance à soi et à un lieu. Et c'est très émouvant, je dirais, de voir dans l'escalier de l'exposition que ce jeu, tout le monde le joue. De dire, est-ce que je suis là ? Qu'on soit tout à fait intellectuel, détaché, distancié de tout, ou au contraire, qu'on vive ses émotions constamment avec force, on a ce même réflexe. Pourquoi ? Ça parle du temps qui passe, ça parle du temps qui passe dans nous, en dehors de nous, et de ce qu'on en fait. Ça parle de la mort dans une société qui n'aime pas en parler.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que nous qui avons nos photos de classe, des fois, à partir après 1960, on est un peu déçus de ne pas se trouver.
Oui, alors là, on a entendu hier, on avait une rencontre, débat, et il y a un visiteur qui, après avoir parcouru longuement l'exposition, a dit « Ah, alors pour moi, c'était terrible cette visite, parce que j'ai senti très fort le quotient émotionnel de l'exposition ». Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'allais me reconnaître nulle part parce que je n'ai pas fait mes classes à Genève. Et il était vraiment, c'était pour lui manqué à l'appel. Il y avait une fête pour beaucoup de gens et puis lui, il pouvait pas vraiment, il était très frustré.
Oui, parce que c'est sûr qu'on a l'impression que tous les gens qui entrent dans cette expo, et y compris soi-même quand on a fait ses classes à Genève, on ne vient pas à cette exposition comme on vient à n'importe quelle exposition. On vient presque à une invitation de souvenir, à une retrouvaille de classe, en quelque sorte. Et ça, ce n'est pas tout à fait le sens habituel des expositions. Les gens viennent rarement pour s'y retrouver réellement eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas tout à coup une nouvelle vocation de l'exposition qui est de faire participer les spectateurs à ce qu'ils viennent voir ?
Je ne sais pas. La participation du spectateur, bon, ça c'est une ambition de tout organisateur d'exposition. Ici, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, par exemple, on organise, comme à toutes les expositions, des visites commentées. Et il se trouve que pour cette exposition-ci, on a très très peu de demandes de visites commentées. Alors qu'on a un public habituel qui vient par visite commentée. On a énormément de personnes, presque tous les visiteurs sont des visiteurs qui viennent d'eux-mêmes et qui viennent en tout petit groupe, mais qui ne demandent pas du tout un commentaire. On a aussi beaucoup d'enfants qui viennent seuls, le jeudi par exemple, en se promenant, et ça on ne l'a jamais vu. Donc c'est vrai que ce qu'on offre, c'est une exposition où les gens ont l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça, ils le ressentent très fort, une exposition où ils peuvent eux-mêmes faire le discours, c'est-à-dire eux, ils en connaissent autant que les organisateurs, puisque quelque part ce sont leurs objets, ou ils ont le même à la maison. Donc je crois que moi, je n'ai jamais vu une exposition où les textes, par exemple, on a les textes des citations de donateurs, ça c'est peut-être lu. Mais nos textes à nous, ils ne sont pas du tout lus, ils n'intéressent pas les gens. Et bon, peut-être qu'ils ne sont pas placés, etc. Mais il y a tellement d'autres choses à voir et les gens peuvent tellement facilement se situer eux-mêmes qu'il n'y a pas ce jeu de « on est dans une exposition, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre ». On est là et on vit quelque chose de tout à fait personnel.
Pour aller dans le même sens, une des choses qui nous a énormément surpris au début de l'exposition, et dont Aline aura sans doute l'occasion de reparler tout à l'heure, c'est le fait que les gens feuillettent tout. Au début, dans la salle du rez-de-chaussée, par exemple, il y a des cartons, des différents types d'enveloppes dans lesquelles on a reçu des choses et on a laissé ces choses. Eh bien, au début de l'exposition, c'était un peu l'étage BD des grands magasins, c'est-à-dire qu'on sentait une autorisation immédiate de tout feuilleter. Et il y a un étage où il y a toute une série de cahiers très, très beaux. Eh bien, les gens ne se contentent pas de la page exposée. Ils veulent voir toutes les pages du cahier. La même curiosité à propos des bulletins scolaires qui sont pourtant placés sous plexiglas. Eh bien, il y avait des gens qui tiraient le bulletin de sous le plexi pour parcourir rapidement toute la vie scolaire de Nestor Molière, par exemple, ou de tel bon élève. Donc il y a une identification très forte qui tient sans doute au fait que ce sont des choses qu'on a produites. Et on sait que que ces choses n'ont pas de, de valeur, ne sont pas précieuses d'aucune manière. Donc, elles sont à soi. Si on ne les a plus, eh bien, c'est une occasion jamais de faire comme si on les avait et de se rappeler. Et ça, je crois que c'est aussi une chose intéressante à analyser et à comprendre.
À la petite école, on apprend aussi bien sûr des chants en langue française, puisqu'on est à l'école, il faut se mettre dans la culture du pays, et on apprend toutes sortes de chansons que vous connaissez sûrement, bien sûr.
Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est un carton, pirouette.
Force rouge, force bleu. Dans sa cabine se défend au mieux. Et avec toi tu viens de contre mieux. Il vainc contre les forces du mal. Bioman, Bioman, des forces avec toi. Tu feras la loi avec avant toi. Bioman, Bioman, des forces avec toi. Tu feras la loi avec avant toi. Oh Bioman, hein? Oh Bioman, hein?
Au marché, au marché, tipi, 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 des satas et le poisson, le savon, le savon. Au marché, au marché, tipi, 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 des solides, des sauvages jolis. Un chou-fleur, un dessert, parce que vous le faites, un dessert, un dessert, c'est la vanille, la petite fille. Au marché, au marché, tipi, 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 les familles, les garçons, le savon, le savon. Au marché, tipi, 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 les familles, les soeurs, ils sont jolis.
Pour l'école, quelques sous, pour quelques sous, la fumoir pour le vin, la pommade, le malade, c'est la première, la grand-mère, et le tabac pour grand-papa.
Au marché, tipi, 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 le savon, le savon. Au marché, tipi, tipi, tipi,